Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue chez nous dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être tous les jours, du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, je ne suis pas seule dans ce studio, je suis bien accompagnée, bien en sécurité, aux côtés du docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré aux émotions, celles que nous vivons tous au quotidien et qui peuvent nous angoisser, nous bouleverser, nous dépasser. La joie, la peur, la colère, comment apprendre à mieux les gérer, plutôt mieux les écouter pour vivre plus sereinement. Alors pour nous aider, pour nous faire aimer notre sensibilité telle qu'elle est, nous recevrons en studio Saverio Tomasella. Il est docteur en psychologie. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous ferons un focus sur le syndrome d'apnée du sommeil. Comment savoir si on en souffre, comment traiter ce trouble et ses complications? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de certaines dérives et complexes qui peuvent naître chez les utilisateurs assidus d'applications de rencontres.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Kevin. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, Jimmy. J'ai une question à vous poser au niveau du pénis. Je sais que j'ai une douleur très sensible quand du décalotage et quand je touche avec la main au niveau du gland. Il y a une douleur très très forte qui vient et ça peut embêter pour des problèmes de pénétration ou de fellation par exemple. Et je ne sais pas d'où ça pourrait venir.
Alors Kevin, pour vous répondre, on a fait appel, comme à notre habitude, à un spécialiste du sujet, le docteur Marc Galliano, il est urologue à Paris.
Quand on a une hypersensibilité du gland, il faut savoir si elle est récente ou si elle est plus ancienne. Si elle est plus ancienne, il peut y avoir deux problèmes qu'il faut à peu près gérer. C'est soit un frein trop court, donc c'est le petit fil qui relie le gland au fourreau de la verge. Donc s'il est trop tendu, il se tend à chaque rapport sexuel ou à chaque décalotage, ça va être tendu, ça va faire mal. En général, c'est facile à voir. Ce petit fil va devenir blanc et éventuellement, des fois, il peut être source de douleur ou voire même, il peut des fois se fissurer. Après, si le gland est sensible, c'est parce que c'est un gland qui peut être très humide à cause d'un dysfonctionnement du prépuce. Et donc, en fait, cette hypersensibilité est liée au fait que vous ne décolletez pas assez souvent. Si maintenant cette hypersensibilité du gland elle est très récente, il faut voir si le gland il est rouge ou pas, parce qu'éventuellement ça peut être une infection. Donc Kevin, ce qu'il faut faire, il faut surtout se poser la question de est-ce que j'ai toujours ce problème ou est-ce que c'est un problème qui est récent? Et éventuellement, je vous invite à consulter un spécialiste.
Voilà Kevin, c'était le docteur Marc Galliano au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent on va prendre une deuxième question, celle-ci elle est pour vous, c'est celle que nous a laissée Martha, écoutez bien.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite question pour vous. J'ai été vaccinée contre le Covid il y a un mois, car je suis une personne à risque et je me demandais si demain l'un de mes proches est positif, est-ce que je serais considérée moi aussi comme un cas contact malgré mon statut de vaccinée? Merci pour votre réponse, bonne émission.
Alors Jimmy, une bonne question car des personnes vaccinées néanmoins, malgré tout ce qui se passe, il y en a quand même de plus en plus, c'est une bonne chose. Quand on a eu son vaccin, si on a un contact avec une personne qui est Covid+, est-ce qu'on est à nouveau considéré comme un cas contact?
Alors tout d'abord, il faut savoir ce qu'on appelle vacciné. Vacciné, c'est au moins deux doses et puis attendre 2 à 3 semaines avant la deuxième dose pour avoir une efficacité complète. L'efficacité complète n'est pas parfaite à 100% et donc il y a toujours une probabilité que vous échappiez à la vaccination. Raison pour laquelle nous allons avoir besoin de deux choses. Un, que beaucoup de personnes soient vaccinées. Et deuxième chose, un contrôle de l'épidémie. Ça diminuera d'autant plus la probabilité d'être cas contact. En l'état actuel des connaissances, pour l'instant, eh bien, si vous êtes cas contact, même en étant vacciné, eh bien, vous devrez vous faire tester en se disant « on ne sait jamais si vous faites partie des personnes qui ne répondent pas parfaitement à la vaccination ». Mais je tiens à vous rassurer, si jamais vous développez l'infection alors que vous êtes vacciné, on estime que vous n'allez pas faire de forme grave et que vous n'allez pas mourir de l'infection, car c'est ça aussi l'enjeu de la vaccination.
Bien sûr. Alors, on est protégé a priori par la vaccination, ce que vous dites, mais ce qu'elle demande, je pense aussi, est-ce que finalement on peut être porteur asymptomatique? Déjà, on peut l'être sans être vacciné, donc vacciné également?
Non, alors on pense que lorsqu'on est vacciné, les études le montrent de plus en plus, on va réduire aussi la quantité de virus que vous avez
qu'on
en vous.
Qu'on transporte sur nous, c'est
et
ça.
Et donc,
dans
on
nous.
Va en transmettre beaucoup moins, voire pas du tout. Et à terme, il nous faut encore des études solides pour prouver que même vacciné, eh bien on ne peut plus être asymptomatique. Et certaines études le montrent, il y a de moins en moins d'asymptomatiques avec les personnes vaccinées. Donc, a priori, on serait protégé.
Alors, on pensait qu'être vacciné permettait peut-être, enfin, c'est pour certains, de reprendre une vie presque normale, même s'il y a des contraintes toujours qui sont là pour tous. Quelle est finalement la liberté que peuvent retrouver aujourd'hui les gens vaccinés? Ils peuvent côtoyer les gens sans masque chez eux ou alors juste entre personnes vaccinées? C'est quoi la liberté retrouvée pour ces gens-là?
La première liberté, c'est celle de ne pas mourir.
Oui,
je pense que
c'est
déjà pas mal.
Pas mal déjà. Oui, oui.
Et la deuxième liberté, c'est celle de ne pas avoir de séquelles de cette infection. La troisième, c'est probablement de ne pas transmettre l'infection aux autres. Et puis, on peut s'intéresser ensuite aux libertés individuelles et on pourra former peut-être des bulles vaccinales. Si entre vous, vous êtes 5 personnes d'une famille qui est vaccinée, eh bien on peut revoir les enfants, les petits-enfants, et puis retrouver peut-être à moyen long terme un semblant de vie normale. Car c'est ça l'objectif, c'est de se débarrasser de ce foutu masque.
Donc pour ces gens-là, entre personnes vaccinées, la bulle vaccinale, c'est clairement même des dîners, donc
sans masque,
des déjeuners plutôt. Parce
exactement, que... des déjeuners en respectant le couvre-feu, des déjeuners sans masque, après la deuxième injection, 2 à 3 semaines, car sinon ça ne sert strictement à rien de se faire vacciner. Si c'est pour garder le masque toute la vie, bah, ne nous vaccinons pas. Donc oui, on pourra le faire, et à mesure qu'on sera tous vaccinés et qu'on contrôlera l'épidémie, on retrouvera, je l'espère, une vie normale.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions, 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité du jour, c'est Saverio Tomasella qui vient nous parler de nos émotions aujourd'hui, celles qui nous font parfois vivre les montagnes russes niveau moral. Comment les comprendre, comment vivre avec et aimer notre sensibilité telle qu'elle est? On vous dit tout très vite, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Saverio Tomasella. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et l'auteur donc du livre « Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester » qui est paru chez Larousse. Alors on va parler des émotions avec vous cet après-midi. Et tout de suite, quand on parle d'émotions, on pense peur, joie, tristesse, colère, surprise, dégoût. Tout ça, c'est des émotions qu'on vit. Mais c'est quoi une émotion, si on en prend une, enfin au sens général, on va dire, d'un point de vue neurobiologique?
Alors Mélanie, vous allez être surprise parce que avoir faim, avoir soif,
ça
avoir envie
souvent
d'uriner,
aussi,
avoir chaud, avoir froid, ce sont des émotions primaires.
Ah oui.
Et c'est bien de partir de ces émotions primaires, comme par exemple avoir faim ou avoir soif, parce que ça va nous expliquer ce que c'est du point de vue neurobiologique. Une émotion, c'est une information que nous donne le corps sur la situation que je suis en train de vivre là maintenant. Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je me sens bien avec vous? Oui. Donc j'ai une émotion favorable. Le corps nous renseigne à travers des sensations qui sont conscientes ou inconscientes, des aises ou des malaises, hein, on se sent bien ou on ne se sent pas bien, et ça nous permet de nous rendre compte de ce qu'on est en train de vivre. Et comme son nom l'indique, émotion et motion en latin et en anglais, ça veut dire mouvement, ça nous pousse à bouger. Donc si j'ai faim, je vais chercher à manger, si j'ai soif, je vais chercher à boire, si j'ai peur, je peux fuir ou combattre, etc. etc.
C'est très intéressant.
Et c'est quelque chose qui est universel, on a tous des émotions primaires, je suppose, même la pire des ordures, le pire des serial killers, il a ses émotions primaires, mais est-ce qu'il a aussi les autres émotions?
Alors voilà, c'est la grande différence, on a tous des émotions primaires, donc physiques, mais effectivement, les émotions sociales, celles qui nous permettent d'être en relation avec les autres et notamment de développer notre empathie, notre compréhension de l'autre, et bien le serial killer ou tous les psychopathes, eux, vont en manquer.
Elles nous servent à quoi ces émotions? Vous l'avez dit, à bouger souvent, enfin à se mettre en mouvement pour une action, donc à se protéger finalement, c'est ça? À rester en vie aussi, c'est ça?
Alors exactement, le but premier, c'est la survie. Donc faire ce qu'il faut pour manger, boire, se protéger et rester en vie. Et puis après, c'est coopérer, entrer en convivialité avec nos congénères, avec nos semblables, et donc parler, aimer, travailler, vivre ensemble.
Et du coup, est-ce que nous, les humains, avons plus d'émotions que les animaux? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut nous différencier?
Alors, ça nous différencie de la plupart des animaux, mais pas tous, parce que les animaux supérieurs, alors on avait parlé des neurones en faisceau la dernière fois, et en fait, il y a des animaux comme les dauphins, les éléphants, les baleines et les singes, les grands singes, qui ont un cerveau très proche du nôtre et qui vont donc ressentir des émotions très très proches des nôtres. Ils ne vont pas pouvoir les exprimer comme nous, donc on partage nos émotions avec les grands animaux.
Comment elles naissent, ces émotions? Est-ce qu'on les a d'ailleurs, enfin tout le panel qu'on a un petit peu décrit, il y en a encore bien d'autres, hein, on ne peut pas toutes les citer, mais est-ce qu'on les a vraiment dès la naissance? Un petit nourrisson, on dirait un petit animal, est-ce qu'il y a déjà tout ça? La peur, alors la faim, ça on sait en général, on l'entend en tout cas, mais est-ce qu'il y a déjà tout ça dès le début?
Oui, parce que une des spécificités de l'espèce humaine, c'est que notre cerveau limbique, qui correspond au cerveau reptilien, au cerveau émotionnel, est à maturité au moment de la naissance. Donc le petit humain va ressentir toute la gamme des émotions. Évidemment, il va découvrir des émotions sociales, culturelles, au fur et à mesure de sa croissance, mais toutes les émotions de base, il peut les sentir dès le moment de sa naissance.
Ça veut donc dire qu'on va aussi, ça va dépendre de notre éducation et la façon dans laquelle on va évoluer avec l'entourage et la famille.
Oui, la famille, l'environnement, la culture vont beaucoup jouer sur nos émotions et surtout sur la façon dont on va en être conscient, dont on va les vivre et pouvoir les exprimer. Par exemple, dans une famille qui n'aime pas les émotions, l'enfant se dit « Ah, c'est bizarre, je sens des trucs, mais comme on n'en parle jamais, je ne vais pas en parler. » Alors qu'au contraire, dans une famille où les émotions sont bien vécues, l'enfant va se sentir à l'aise comme un poisson dans l'eau, reconnaître ses émotions et pouvoir en parler.
Ça veut dire qu'un enfant pour lequel on a du mal à exprimer de l'amour, par exemple, lui, à son tour, il aura du mal à la développer puisque finalement, il n'a pas baigné dans cet environnement.
Exactement, et c'est un des grands enjeux de l'éducation en famille et à l'école, c'est que ce n'est pas que l'enfant manque d'amour, c'est qu'il manque de l'expérience, de l'expression de l'amour. Mmh. Et comment on fait pour exprimer de l'amour avec des mots ou avec des gestes ou avec des regards ou de l'écoute?
Justement, les émotions, on a tendance à penser que c'est quelque chose de très intérieur à nous-mêmes, à chacun d'entre nous. Mais est-ce qu'on peut les reconnaître? C'est vrai qu'il y a certaines personnes. Alors, pas Jimmy, il est assez poker face. On ne sait pas trop les émotions. Moi, avec les mois de pratique, je commence à le cerner. Mais est-ce que sur le visage, c'est quelque chose de facile à identifier?
Alors, même Jimmy, hein, moi, je trouve que.
Vous arrivez à trouver quelques émotions? Oui, moi, je me demande.
Visage, pas de problème. Oui, en fait, on est très habitué à ça. C'est-à-dire qu'on va très vite repérer si l'autre est en forme, pas en forme, un peu fatigué. En colère ou grincheux, etc. On repère assez vite.
Oui, c'est vrai, ça on le voit aussi sur Jimmy.
Ou content, joyeux, etc. En fait, la seule chose, c'est que dans la vie courante, tout va tellement vite qu'il y a plusieurs informations à la fois. Mais on les voit, les choses, sur les visages des gens. Alors avec les masques, c'est plus compliqué. Hein.
Alors, vous parlez dans votre livre des émotions, mais quelle est la différence avec les sentiments?
Alors, c'est une différence très importante dont on ne parle pas assez souvent. L'émotion, elle va durer 2 à 3 minutes quand elle est brève, plusieurs heures si vraiment elle est très très forte. En revanche, le sentiment, il est durable. Par exemple, le sentiment amoureux, qui peut avoir des hauts et des bas, mais il peut durer toute une vie, ou en tout cas pendant de très longues années. Le sentiment aussi des gens qui ont de la rancune, de la haine, du ressentiment,
de la jalousie,
tout ça, ce sont des sentiments. Ça dure longtemps. Ça dure des jours, des mois, voire des années.
Saverio, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on va passer à la pratique à présent. Comment vivre avec toutes ces émotions qui peuvent nous déborder parfois? Parce que pour notre invité, l'enjeu, ce n'est pas tellement d'apprendre à les gérer, ces émotions. Il faudrait plutôt apprendre à les écouter simplement pour être vraiment serein au quotidien. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, Saverio Tomasella. Vous êtes docteur en psychologie et auteur de Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, qui est paru chez Larousse. Alors Saverio, on va voir dans cette partie comment gérer ses émotions. Je dis ça, mais je sais que vous n'aimez pas du tout ce terme, gérer. Vous, vous dites plutôt qu'il faut apprendre à les écouter, nos émotions. Ça veut dire quoi concrètement?
Alors, ça veut dire déjà qu'on ne peut pas gérer des émotions parce que ça nous échappe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ce sont des signaux sensoriels qui viennent du système nerveux autonome et par définition, c'est un système qui échappe à la volonté. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, puisque les neurologues et les neurobiologistes ont découvert que nos émotions correspondent à un besoin physiologique ou physique, voire psychique, mais d'abord physiologique, ce qu'on peut faire, c'est les écouter. C'est-à-dire prendre quelques secondes rapides pour se dire qu'est-ce qui se passe là pour moi? Je sens un malaise ou au contraire...
Une mini-méditation comme ça, c'est un peu
alors,
ça?
Je dirais même pas méditation pour pas faire peur, mais simplement écouter son émotion. Qu'est-ce qu'elle vient me dire là? De quoi j'ai
l'accueillir
besoin?
L'accueillir et l'écouter.
L'accueillir parce que très vite, soit le corps va réguler, parce que le corps est extrêmement sage, il a des capacités extraordinaires au niveau des 3 cerveaux, alors le cerveau principal dans la tête, sinon les intestins, le ventre et le cœur. Il va y avoir une régulation qu'on appelle l'homéostasie, qui fait qu'il va savoir trouver comment retrouver un équilibre.
Mais justement, si on veut ne pas l'écouter, puisqu'on vit dans une société un peu aseptisée, où on ne doit pas trop avoir d'émotions, en tout cas pas les exprimer, donc si on ne les écoute pas, qu'est-ce qu'on risque?
Alors déjà, faisons la différence entre je ne peux pas l'exprimer, ce qui est vraiment pas sympa et pas favorisant, et je ne l'écoute pas. C'est-à-dire que même dans un environnement où on ne veut pas entendre mes émotions, je peux moi prendre le temps de les écouter. Effectivement, si je n'écoute pas mes émotions, elles vont s'accumuler. Il y a des colères ou des peurs ou des tristesses qui s'accumulent et qui peuvent dégénérer. Alors la tristesse, c'est facile à expliquer. Quand on a trop de tristesse, on peut devenir mélancolique, donc une forme de dépression. Mais la colère aussi, c'est pas forcément bon parce qu'il y a des gens qui sont explosifs. Ils attendent, et puis après, pour une peccadille, ils explosent. C'est pareil pour la peur, ça peut générer de l'anxiété. Donc de toute façon, on n'a pas intérêt à les garder trop longtemps. Alors si, par exemple, c'est au travail qu'on ne peut pas exprimer ses émotions, on va le faire le soir. Mais au moins, on se dit avec mon conjoint, avec mes enfants, je joue. Alors, d'autant qu'il y a beaucoup de façons, on va le voir, beaucoup de façons de défouler ou d'exprimer ses émotions.
Ça veut dire donc qu'il n'y a aucune émotion qui serait négative, en fait, parce que ce que vous avez décrit là, la colère, c'est pas quelque chose de très positif. Même celles-ci qui ont, en tout cas, on a l'impression qu'elles sont négatives, il faut les accueillir, les écouter de la même façon.
Alors oui, déjà, moi, ça fait 25 ans que je suis psychanalyste et psychothérapeute. L'idée des émotions qui seraient positives ou négatives, c'est une idée qui nous est venue des États-Unis ces 10 dernières années, qui est une idée un peu puritaine, où en fait, il y aurait du bon et du mauvais dans nos émotions.
Donc la colère, c'est super, en fait.
Oui, c'est super. Et pourquoi ? Parce que la colère, elle est là. Comme je vous disais au début, l'émotion provoque un mouvement. Le mouvement de la peur, c'est de fuir. Mmh. Le mouvement de la colère, c'est de repousser. C'est-à-dire que si vous empiétez sur mon espace vital, ou si vous faites quelque chose qui est injuste, ou si vous voulez me forcer à faire quelque chose, ma colère, elle va m'aider à vous repousser, à repousser la personne qui veut me faire faire quelque chose ou me manipuler, tout simplement. Donc, elle est aussi en elle-même positive et favorable.
Il faut donc accueillir cette émotion. Et comment est-ce qu'on fait concrètement, puisqu'on l'écoute, et puis comment est-ce qu'on fait ensuite ?
Alors, on accueille l'émotion simplement soit en se rendant compte que c'est de la peur, c'est de la colère, c'est de la joie, c'est de la tristesse, c'est de la surprise, c'est du dégoût ou de la déception, etc.
Admettons, un mec me pousse violemment dans le métro, ça me met très 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 en colère. Qu'est-ce que je fais ? Je lui mets un gros coup de pied, l'accueille, j'écoute, je suis en colère et bam,
il vaut peut-être
je le pousse
éviter,
à mon tour.
Voilà, il vaut peut-être éviter de lui donner un gros coup de pied parce que ça pourrait dégénérer en bagarre, mais peut-être le pousser ou lui dire « Monsieur, excusez-moi, mais ça se fait pas » ou ce que vous avez besoin de lui dire. Je pense que ça permet aussi d'expulser le sentiment, l'émotion qu'on ressent. Mais de toute façon, si c'est pas une situation aussi, aussi une situation d'urgence aussi explosive, on va simplement prendre le temps de sentir ce qui se passe dans son corps.
Et du coup, ça veut dire qu'il faut verbaliser, ça commence par dire les choses, en fait, quelle que soit l'émotion, bah juste le dire. Et s'il y a personne en face de nous, même le dire tout seul ? Si alors, je n'ai pas forcément de proche à qui transmettre cette émotion.
Alors, le dire oui, on peut se le dire à soi-même à voix haute. C'est vrai qu'on s'est rendu compte en hypnose ou dans d'autres thérapies que le simple fait de parler à voix haute, même si on est seul, a un côté régulateur qui nous calme. Mais avant même parfois de pouvoir l'exprimer verbalement, on ferme les yeux, on écoute le trajet de l'émotion et ce trajet de l'émotion, il va se manifester par des sensations. Alors, je prends un exemple tout simple, une contrariété le matin. Eh bien, j'ai senti ma gorge qui piquait, puis après, j'ai senti une constriction au niveau de l'œsophage, j'ai senti au creux de l'estomac quelque chose qui se serrait et puis je suis les sensations, puis je vais sentir par exemple des fourmillements dans les mains, un petit mal de tête qui va durer quelques secondes et au bout d'un moment, ce trajet sensoriel de l'émotion s'arrête. Ça veut dire que le cerveau a traité l'émotion.
Donc si vous croisez un jour le docteur Jimmy Mohamed dans la rue qui parle tout seul, il est juste en train d'écouter ses émotions, ne vous inquiétez pas pour sa santé mentale.
Il a bien raison. Voilà.
Ça veut dire qu'on peut agir par nos actes pour dompter nos émotions, on l'a un petit peu compris déjà. Mais par exemple, admettons, j'ai très très peur de quelqu'un, je vais aller lui parler, ou j'ai peur d'une araignée, je vais la toucher. Bon, honnêtement, ça peut aussi plus que renforcer cette peur, non ? Enfin, moi je sais pas, je n'irai pas la toucher l'araignée. Hein,
mais... Alors, en préparant l'émission avec Benjamin, on s'est dit que nous, les araignées, on préférait les écraser.
Moi aussi. Bon,
voilà. Mais on peut aussi la caresser, après tout.
Ah oui.
C'est-à-dire que le fait de faire un geste nous aide à exprimer quelque chose de notre émotion. Ça peut être souffler sur l'araignée, ça peut être la prendre avec une feuille de papier et la faire sortir par la fenêtre.
Quoi.
Effectivement, faire quelque chose ou partir dans une autre pièce. Parce que le simple fait de faire quelque chose avec notre corps fait que le corps va se décharger de cette charge émotionnelle.
Parfois, on passe du rire aux larmes en quelques secondes. Est-ce qu'on peut enchaîner deux émotions quasiment sans intervalle de repos ?
Oui, alors les enfants le font. Les personnes ultra sensibles le font aussi, mais on peut le faire dans un état d'excitation, c'est-à-dire que quand on est à une fête familiale ou autre, ou à un moment où on est vraiment très très en forme, eh bien, il y a aussi une accélération de nos émotions qui fait qu'on peut effectivement passer d'une émotion à l'autre très rapidement.
Ça va, on va continuer cet entretien passionnant dans quelques minutes. Restez bien avec nous. On revient très vite avec cette émission dans laquelle on apprend donc à être à l'écoute de nos émotions. Et juste après, on va s'intéresser plus particulièrement aux personnes hypersensibles chez qui cela peut être encore plus difficile de gérer le quotidien. On va vous donner pas mal de conseils pour une vie plus simple, toujours pleine d'émotions, mais aussi de sérénité. On y revient très vite, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et il nous accompagne cet après-midi. C'est vous, Saverio Tomasella. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et d'ailleurs, vous êtes aussi un spécialiste de l'hypersensibilité. On va parler de ça à présent. Saverio, est-ce que les personnes hautement sensibles ont plus d'émotions que les autres? Tout ce qu'on a décrit avant, est-ce que c'est ça en plus?
Oui, Mélanie, vous avez raison, c'est très important d'en parler. Effectivement, les personnes, moi je les appelle hautement sensibles ou ultra sensibles, pour suivre un peu la dénomination anglo-saxonne. Les personnes hautement sensibles ont non seulement plus d'émotions, des émotions plus variées, des émotions plus intenses et des émotions qui vont durer plus longtemps. Donc on pourrait dire qu'elles ne sont pas favorisées de ce point de vue-là, sauf si les émotions sont très agréables, évidemment.
Mais en plus de ressentir ces émotions, est-ce qu'elles peuvent être impactées par l'entourage, un peu comme un enfant qui agit comme une éponge et dès qu'il sent qu'il y a de la tension dans l'air, eh bien lui aussi, l'hypersensible, eh bien va le ressentir.
Oui, Jimmy, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la personne ultra-sensible, elle, c'est une éponge. Et comme vous le dites, comme les enfants, parce qu'en fait, l'enfant tout petit est ultra-sensible par nature. Il va ressentir et recevoir toutes les informations de son environnement, y compris les émotions. Donc les personnes ultra-sensibles sont affectées, impactées, non seulement par leurs propres émotions, mais par les émotions de toutes les personnes qui sont autour d'elles.
Si j'arrive de mauvaise humeur en pleine journée, et si Mélanie est hypersensible, elle va ressentir mon émotion négative et je vais lui transmettre
plus vite que les autres, mais elle va aussi être impactée parce que chez les ultra-sensibles, il y a deux phénomènes très importants. Le premier, c'est l'amplification des émotions. Une émotion qui, pour une personne non ultra-sensible va durer 1-2 minutes, bah chez une personne très sensible, ça va prendre beaucoup de place et ça va mettre plus de temps à être traité. Et la deuxième chose, c'est la contagion émotionnelle. Ça existe beaucoup dans les foules, mais pour les personnes ultra-sensibles, ça peut exister aussi en face-à-face avec quelqu'un qui, par exemple, serait en colère. Une personne qui arrive au travail, qui est ultra-sensible, qui va très très bien ce jour-là, elle rencontre un collègue qui est en colère pour une bonne raison.
Jimmy rigole parce qu'il a l'impression que c'est un truc qu'on vit, qu'on a vécu. Alors que moi, je suis persuadée de ne pas être hypersensible. Je suis juste tout à fait normale. Enfin,
c'est pas normal. C'est 30% de la population.
Je ne suis pas ultra-sensible. Je suis basique.
Une personne ultra-sensible va capter cette colère et va pouvoir, elle, l'exprimer à la place de l'autre.
Ça veut dire que donc, fabuleux, les émotions sont plus fortes. Oui, je ne sais pas, on fera mon analyse un peu plus tard, mais est-ce que ça veut dire qu'un simple agacement chez une personne hautement sensible, ça devient tout de suite une grosse colère, c'est ça?
Alors, un simple agacement, ça devient de l'irritation, on ne va pas dire une grosse colère. Pour que ça devienne une grosse colère, il faudrait quelqu'un qui garde ses émotions et puis au moment où il y a un petit agacement, ça explose. Non, mais disons que l'agacement, ça va devenir plus que de l'agacement, effectivement.
Alors, dans votre livre, vous évoquez la tendance au pessimisme et ce qu'on appelle le biais de négativité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Je crois que ça touche quand même pas mal de monde.
Alors, c'est très important parce que ça, c'est une découverte qui va ravir les ultra-sensibles. Le biais de négativité a été découvert par des neurologues. Et en fait, c'est un reste de notre vie ancienne de Cro-Magnon ou de la préhistoire où nous devions faire très attention pour survivre. Donc, le biais de négativité, c'est que le cerveau va prêter plus d'attention à tout ce qui est mauvaise nouvelle, difficulté, danger, risque, etc., pour se protéger. Et ça impacte le cerveau beaucoup plus qu'une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, par exemple, une critique nous impacte plus qu'un compliment. Il y a même des études qui disent qu'il faudrait 10 compliments pour une critique pour compenser. Et donc ça touche 70% de la population. En revanche, les ultra-sensibles, les 30% restants, eux, ont un avantage. Et cet avantage ne se développe que dans un environnement favorable. S'ils sont dans un environnement stressant, s'ils sont face à l'agressivité, la misère, etc., ils ne vont pas pouvoir développer cet avantage. Mais dans un environnement paisible et porteur, eh bien, ils vont au contraire accorder plus d'importance aux bonnes nouvelles, aux petits riens.
Ils ont un avantage. Ils ont un avantage.
C'est-à-dire qu'ils ne vont pas
être marqués. Des gens plus positifs quand ils sont bien dans leur pompe.
Voilà, quand ils sont bien dans leur pompe et dans leur environnement, ce sont des gens optimistes, positifs et qui vont voir le bon côté des choses.
Alors, vous écrivez qu'il faut accepter l'émotion et que la pensée positive ne fonctionne pas. Expliquez-nous.
Alors ça, c'est très intéressant aussi parce qu'on nous a un peu bassiné dans les journaux psy avec la pensée positive et on s'est rendu compte finalement ça ne marche pas très bien. On ne va pas dire que ça ne marche pas du tout parce qu'il vaut mieux penser dans des termes agréables, favorables, que de penser dans des termes destructeurs. Ça, on est d'accord. Mais par exemple, il y a eu une étude en Suède auprès d'athlètes concernant des émotions difficiles. Et on a fait deux groupes d'athlètes. Le premier, on leur disait, vous allez, chaque fois que vous avez une émotion difficile, c'est une étude qui a duré plusieurs mois, chaque fois que vous avez une émotion difficile, vous allez essayer de la contrecarrer avec une pensée positive. Et l'autre groupe, on leur a dit, chaque fois que vous avez une émotion difficile, vous vous posez, vous prenez le temps de l'accueillir, d'écouter ce qui se passe, de fermer les yeux, etc. Eh bien, l'étude montre un avantage net assez considérable pour la deuxième façon d'opter, qui est d'accueillir son émotion, de l'écouter, alors que la pensée positive n'a pas bien fonctionné. Plus que ça, aux États-Unis, de nombreuses études maintenant prouvent que 95% de notre vie psychique est inconsciente, que seulement 5% est conscient, donc volontaire, on fait les choses dont on est conscient et ce qu'on veut, et que donc, de toute façon, si on essaye de penser positivement, alors encore une fois, je ne dis pas qu'il faut penser négativement et de façon destructrice.
Mais se forcer à la pensée
Mais si on veut se forcer tout le temps à la pensée positive, de toute façon, ça a peu d'impact, puisqu'il y a les 95% restants.
Alors, on a tendance souvent à lier nos intestins, le stress et les maux qui peuvent s'accompagner, comme les maux de ventre. On parle souvent de boule au ventre. Et vous dites dans votre livre qu'il y a un lien entre sensibilité et microbiote intestinal et que c'est très important.
Ah, je savais que ça vous plairait. Ça.
Et encore
Jimmy,
plus quand on est hypersensible.
De microbiote.
Oui, alors tout ça, ce sont des études passionnantes qui ont été faites dans les pays anglo-saxons, en Irlande, au Canada, aux États-Unis, en Australie, sur le microbiote et qui montrent à quel point notre flore intestinale a un impact sur notre humeur. Et il y a même des chercheurs qui ont trouvé qu'une mauvaise flore intestinale qui dure sur une longue période peut provoquer des dépressions, des schizophrénies, des formes légères d'autisme. Donc, on sait maintenant que plus les intestins sont en bonne santé, alors en plus, ça permet d'avoir une bonne immunité, en ce moment, c'est plutôt bien, mais ça permet aussi d'avoir des émotions moins retentissantes. C'est-à-dire, quand les gens sont extrêmement émotifs et qu'ils sont complètement dépassés par leurs émotions, eh bien, ça peut être du fait qu'ils ont une mauvaise santé intestinale.
Très bien, Saverio Tomasella. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus, je ne peux que recommander votre livre « Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester » chez Larousse. Merci encore, Saverio.
Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Jimmy.
Dans un instant, dans notre chronique « Les mots du quotidien » avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons faire un focus sur le syndrome d'apnée du sommeil. Comment savoir si on en souffre, comment traiter ce trouble et ses complications. Nous ferons le point. À tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Très heureux de vous accompagner tous les après-midi, bien évidemment. Et à présent, on va passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Nous faisons le point aujourd'hui sur quelque chose d'assez fréquent, le syndrome d'apnée du sommeil. Savez-vous quels sont les symptômes qui le caractérisent? Quel est le profil des patients les plus à risque? Mais surtout, comment se traite ce trouble qui peut avoir des complications très sérieuses? Nous vous avons posé toutes ces questions. Alors on écoute tout de suite le micro-trottoir de Valentin Piovesan.
Ça veut dire que tu dors beaucoup ou il te manque beaucoup de sommeil?
J'ai déjà entendu parler de l'apnée du sommeil, ouais.
Non, je pense pas en avoir eu une fois. Je tombe pas malade, donc je pourrais pas vous dire, j'ai jamais eu ça.
Il me semble que c'est quand on arrête de respirer pendant le sommeil, si je me trompe pas.
Du coup, s'il y a des arrêts de respiration durant la nuit, pendant son sommeil, oui, ça peut être très dangereux, je pense.
C'est surtout les personnes qui vivent à deux et qui doivent quand même alerter si jamais leur compagnon a des troubles d'apnée, oui, dans la nuit.
Il a une façon de ronfler qui est pas normale. Et c'est ça qui a fait que je l'ai envoyé chez le médecin.
Moi, je n'avais pas vraiment de soucis de sommeil parce que je dors très bien. Sauf que la nuit, ma femme me disait qu'il y a des moments où je respirais pas bien, quoi.
Je pense que peut-être faire de l'hypnose pour apprendre à respirer peut être une bonne solution.
Ils ont des machines pour respirer la nuit avec un masque.
Ça se traite très bien avec l'appareil et le conjoint dort très bien.
Bon, bah, apparemment les conjoints dorment bien avec ces appareils. On va en parler, Jimmy. On va reprendre peut-être les bases pour démarrer cette séquence. L'apnée du sommeil, expliquez-nous simplement ce que c'est.
Alors c'est vraiment très simple, hein. C'est quasiment dans le titre. C'est de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire des pauses respiratoires pendant que vous dormez. Durant plusieurs secondes, jusqu'à 30 secondes, vous allez vous arrêter de vous respirer pendant votre sommeil. Exactement. Oui. Ça va survenir au minimum 5 fois par heure lorsqu'on parle d'apnée du sommeil. Ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20, 30 réveils par heure. Et il faut bien comprendre que quand vous faites cette apnée du sommeil, eh bien votre taux d'oxygène va descendre puisque vous vous arrêtez de respirer. Le cerveau comprend que vous manquez d'oxygène et donc il va se passer un micro-réveil. Et vous allez reprendre votre respiration de façon bruyante pour survivre, sauf que votre sommeil va être altéré. Et ce manque de sommeil et ces micro-réveils vont avoir un impact sur votre cœur, sur votre cerveau et l'ensemble de votre corps finalement.
Est-ce qu'il y a des profils de patients plus à risque de souffrir de ce problème?
Globalement, il faut retenir que ça va être une personne qui a des problèmes ORL. ORL, quelle qu'elle soit. Ça peut être une malposition dentaire, c'est-à-dire des dents qui vont être trop en avant, trop en arrière, avec une mâchoire qui ne va pas. Un problème de luette, une grosse luette qui va entraîner un obstacle avec
c'est
des ronflements. Non, une grosse luette, ça c'est un autre débat. La grosse luette va perturber justement la respiration, une grosse langue aussi, et aussi un gros cou. Et donc on voit ça lorsque vous êtes en surpoids. Et donc ça va toucher plutôt des hommes, d'un âge un peu voilà, mûr, on va dire, 30, 40, 50 ans assez facilement, un peu en surpoids, qui vont avoir un gros ventre et un gros cou.
Mais je crois que ça touche les enfants et pourtant ils n'ont pas un gros ventre, une grosse luette, un gros cou.
Et oui, mais ils ont de grosses amygdales souvent. Ah, et ça va être un enfant qui va se mettre à ronfler de façon très bruyante avec des grosses amygdales, qui va avoir une respiration buccale. Il ne respire pas par le nez, il respire par la bouche. Et il a un faciès particulier, cet enfant. Il a la tête un peu allongée. Et c'est lié au fait qu'il a justement cette obstruction. Et à ce moment-là, on se rend compte que les enfants dorment mal, ils sont fatigués et ils n'arrêtent de grandir aussi.
Alors, une fois pas dépisté, on fait quoi ? Comment on traite ? On a parlé de machines, hein, c'est ça qui nous donne quoi ? De l'oxygène ?
Exactement. Ouais. Chez l'enfant, on enlève l'obstacle, souvent c'est les amygdales. Chez l'adulte, on essaie de perdre du poids dans un premier temps, d'éviter l'alcool par exemple, hein, qui va relâcher les muscles et vous faire ronfler. On fait attention à certains médicaments et puis ensuite, on pose cette machine qui va insuffler une pression positive pour ouvrir les voies aériennes.
Masque, hein, c'est un masque,
exactement, qu'on porte la nuit. C'est très efficace quand on le porte correctement et qu'on le supporte. Parce que souvent, dans la vie de couple, quand il y a un peu de bruit, on a du mal à le mettre.
Les gens le portent et puis ça ne dure pas très longtemps. Le problème, c'est qu'il lâche un peu en cours de route. Or, c'est très efficace, vous dites, c'est-à-dire qu'on évite les complications, vraiment ?
Les complications cardiaques, le risque est multiplié de faire des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus, puisque à ce moment-là, on se rend compte que la microcirculation est altérée. Vous prenez du poids, vous devenez obèse. Donc vraiment, c'est un truc qu'il faut absolument traiter.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour cet éclairage.
Europe.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h bientôt et bien sûr, et restez avec nous. Juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, depuis 15h. Et c'est Catherine Blanc qui entre en scène à présent. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Sébastien. On l'écoute.
Bonjour. Quand je discute avec mes amis, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de matchs sur Tinder et puis d'autres applications de rencontres. Tandis que moi, c'est assez rare. Je commence à me dire que je dois pas plaire, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors Catherine, bon, on n'a pas vu son profil, alors on peut pas savoir précisément, mais quantité ne fait pas qualité, on va surtout dire ça, je pense. Et sur les réseaux sociaux, ça vaut mieux qu'ailleurs, hein, je crois.
Oui, ça c'est sûr. Surtout que là, rendons-nous à l'évidence de ce qu'est un match. Hein. C'est je passe, je m'arrête. Sur une base de quoi on se le demande, puisque quand même dans la vraie vie, quelqu'un
sur la base
qui
d'une photo, hein,
voilà,
même,
d'une photo, mais même pas regarder tranquillement. Et puis en plus, les photos, on sait très bien que d'une photo à une autre, on peut être aussi beau qu'on peut être mochissime.
Bien sûr.
Alors même si elles sont choisies à dessein, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Donc, ce sont quand même des attitudes très pulsionnelles. C'est je regarde. Et est-ce que moi, j'arrive à capter pourquoi certains arrivent à capter le tout de suite match, alors que si ça se trouve, dès qu'on les rencontre d'un peu plus près, ça n'est pas du tout suffisamment satisfaisant. Et d'autres, pourquoi ça passe ? Alors peut-être pourquoi je me fais transparent ou qu'est-ce que j'attends dans cet excès d'intérêt des uns et des autres ? Pourquoi je me cherche tellement dans la diversité des matchs dans ma direction ? On n'est plus dans le sujet de la sexualité, on est dans le sujet du doute quant à soi, du besoin d'être rassuré par un nombre, dans ce monde où on veut être toujours la star.
De statistiques.
Voilà, de statistiques, de stars. On veut des gens qui votent pour nous, on veut des gens qui nous retrouvent beaux, on veut des gens... Mais dans la réalité, on n'assumerait pas une cacahuète si on devait être au rendez-vous de tous ces matchs. Donc, concentrons-nous sur un, ça suffit.
Est-ce que vous pensez qu'à l'inverse, ça nous fait perdre certaines opportunités, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui n'ont pas l'air à notre goût et peut-être avec qui ça pourrait matcher dans la vraie vie.
Absolument.
Et donc se dire que si ça ne matche pas physiquement, ben ça aurait pu marcher autrement. Et peut-être qu'on se met des barrières à choisir, un peu comme un supermarché.
Oui, vous avez tout à fait raison, Jimmy. C'est-à-dire qu'on est dans une lecture de l'autre qui est extrêmement limitée. On est presque plus dans l'intérêt de susciter l'engouement pour soi que dans la vraie curiosité pour l'autre. Et on s'arrête à des détails d'une photo qui ne rendrait absolument pas l'autre ni agréable, ni populaire dans notre groupe d'amis. Or, une relation amoureuse, c'est tellement de choses, ou de désir, si on parlait d'amour, de désir sexuel, c'est tellement d'échanges sur des tas de sujets qu'un seul visage ou photo de plein pied ne peut y suffire pour définir et ce qu'est l'autre et ce que je suis moi. Et donc effectivement, c'est louper des tas d'opportunités que la vraie vie. Alors encore une fois, on ne va pas critiquer les réseaux.
Ça peut être utile. Hein, il y a des belles histoires qui démarrent.
Bien sûr.
Aussi,
et soyons de notre monde. Mais à condition d'aller fouiller un petit peu les relations, de les enrichir et de ne pas en rester à ce première idée d'être couverture de magazine pour pouvoir définir que le couple aurait du sens.
Et puis on va rassurer quand même Sébastien aussi, c'est pas parce que les autres collectionnent les matchs, collectionnent les conquêtes que ça aboutit à quelque chose. Ça sert à rien d'ailleurs si ça aboutit à rien, parce qu'ils cherchent l'amour, j'ai l'impression.
Bien sûr, et puis la collection ne peut ne rendre compte que de la perdition de l'autre, c'est-à-dire je collectionne parce que je me mire moi dans ce grand nombre, donc j'ai une attitude de Don Juan, et dans la réalité je ne vois personne d'autre que moi et je me cherche désespérément, donc ce n'est pas nécessairement gage ni de compétences, ni de valeur de soi, ni, et encore moins de valeur de la relation.
Mais on peut comprendre que si on se prend refus sur refus, on a beau être une belle personne, on a beau avoir des histoires, c'est on peut blanc. Comprendre que pour l'amour propre, eh bien, ça fasse mal.
Bien sûr.
Pourquoi moi je n'ai pas de match alors que certains vont
enchaîner les conquêtes ? Vous en aurez, Jimmy, non, je
plaisante. Non, mais on peut comprendre que ce soit difficile à vivre. On ne peut pas dire, bon, bah, écoutez, c'est comme ça, l'application n'est pas bonne, c'est la société. L'amour propre, on prend un petit coup.
Bien sûr, mais du coup, ça pose la question de comment je me présente. Qu'est-ce qui fait que des gens, par exemple, qui ne sont pas plus beaux que moi, pourquoi cela explose complètement, ils paraissent extrêmement lumineux et plein de possibles, et pourquoi d'autres sont assez éteints. Alors peut-être qu'on peut se dire que c'est une histoire d'être photogénique ou non, peut-être que certains savent prendre la lumière et
certains
d'autres
savent écrire des petits textes aussi plus marrants que d'autres.
C'est ça, mais je pense que
et
donc oui, alors sauf que dans les matchs on ne prend même pas le temps de la lecture,
ah oui,
on
s'arrête, je connais pas bien,
on s'arrête à l'image, donc d'accord. Évidemment c'est assez limité puisque ça favorise ceux qui prennent la lumière. Un jour, une personne me disait d'une mannequin qui l'avait rencontrée par ailleurs et qu'elle n'avait rien de particulier. Mais dès lors qu'elle était prise en photo, elle était sublime, ouais. Absolument sublime. Donc, il y a des gens qui se révèlent en photo, mais sont assez éteints dans la vraie vie. D'autres, c'est l'inverse. Donc, il faudrait que...
Vous, Jimmy, c'est la photo, ça vous va bien c'est...
Non, à mon avis, non, mais à l'époque, non, mais j'étais particulier. Ma femme a été plus sensible à ce que je pouvais être et représenter dans la vie.
Parce qu'en photo, c'est pas gagné. Ouais,
et non, il y a 10 ans, oh là là, c'était compliqué. Déjà qu'aujourd'hui, c'est dur, mais alors il y a 10 ans.
Donc du courage, même si on ne plaît pas en photo, on peut plaire.
On peut tous y arriver, croyez-moi. J'ai réussi.
Voilà, exactement. Et en l'occurrence, c'est vrai que son amour propre, il faut de temps en temps le laisser un peu dans sa poche et voir nos compétences par ailleurs.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On revient demain, même heure, sur Europe 1.